Saint François d'Assise, quatrième partie, chapitre 7, le testament et la mort. Vers la fin d'avril 1225, une sédition survenue à Rome avait contraint Honorius III à s'exiler de sa capitale après un court séjour à Tivoli. Il s'installa définitivement à Rieti, où il demeura jusqu'au commencement de l'année suivante. Aussi le frère Élie, soutenu par le cardinal Ugolin, insista-t-il plus que jamais auprès de François pour obtenir de lui qu'il se rendît à la cour pontificale et consentit à laisser traiter sa maladie Dieu par les habiles médecins attachés à cette cour. C'est ainsi que dans les derniers jours de l'été 1225, François quitta Saint-Damien après avoir pris congé de Claire et de ses sœurs, et tout porte à croire que c'est à cette occasion qu'il leur laissa ses dernières volontés sous la forme que voici. « Moi, le frère François, je suis résolu à suivre la vie et la pauvreté de notre suprême Seigneur Jésus-Christ et à y persévérer jusqu'à la fin. Et je vous prie, mes chères filles, et j'espère de vous, que vous aussi toujours vous persisterez dans votre sainte manière de vivre et dans la pauvreté. Mais il convient que vous preniez bien garde, afin que jamais, sur le conseil ou l'enseignement de personne, vous ne vous laissiez détourner de la pratique de cette vie. » Peut-être François fut-il en état cette fois de faire le voyage à pied, car pendant son séjour à Saint-Damien, Claire lui avait préparé une paire de sandales disposées de telle sorte que malgré les stigmates, il lui fut possible de mettre les pieds à terre. De Terni, il prit la vieille route très familière et très aimée qui remontait la vallée. Entre Poggio, Buston et Rieti, il s'arrêta chez le prêtre de la petite église de San Fabiano, qui est devenu aujourd'hui le couvent de la Foresta. Et de que l'on connut son arrivée dans le presbytère, de toutes parts, le peuple y accourut en foule afin de le voir. Or, la malchance voulut que pour parvenir à la maison où il se trouvait, on eût à traverser la petite vigne du prêtre, et les habitants de Rieti, avec le sang-gêne habituel aux citadins et aux badauds, ne se firent point faute d'apaiser leur soif en cueillant les grappes mûres du pauvre prêtre. Celui-ci fut navré de se voir ainsi dépouillé et finit par se plaindre à François. « Ma vigne me fournissait toujours au moins 13 fûts de vin, dit-il tristement, et cela suffisait pour ma consommation de toute l'année. » François le consola de son mieux. Il lui promit que cette année, comme les autres, il aurait sa provision de vin. Et en effet, on raconte que la vigne, cette année-là, porta beaucoup plus de fruits qu'à l'ordinaire, de telle sorte que le prêtre en put tirer une vingtaine de fûts. À Rieti, François demeura quelque temps dans la maison de Tedalgo, le Sarrasin, suivant ce que nous apprend Guadine. C'est là que, un soir, il appela le frère pacifique et le pria d'emprunter une guitare et de lui chanter le cantique du soleil en s'accompagnant de cet instrument. Mais Pacifique craignit que son chant et son jeu ne déplussent au maître de la maison, et il le dit au saint. « Eh bien, répondit celui-ci, abandonnons cette pensée. Nous devons, ici-bas, renoncer à bien des choses pour ne point causer de peine à notre faible frère. » Or, durant la nuit suivante, François restait étendu sur son lit et il souffrait si fort qu'il ne pouvait s'endormir. Au dehors, on entendit passer les derniers promeneurs attardés. Puis tout fut silence et seules les cloches des églises élevaient leur voix d'heure en heure. Mais voici que soudain, tout contre sa fenêtre, François entendit les accords légers d'une cithare. Et quelqu'un devant la maison se mit à jouer. Et longtemps, longtemps, cette musique se prolongea, tantôt toute proche, tantôt plus lointaine, comme si le musicien allait et revenait sous la fenêtre. Et François, ravi, réconforté, enchanté de cette musique qui jaillissait sans cesse dans la calme nuit fraîche d'automne, restait étendu et écoutait. Et le matin d'après, il dit au frère pacifique, « Cette fois encore, le Seigneur ne m'a pas oublié et a daigné me consoler comme il l'a toujours fait. Figure-toi que pour te remplacer, il m'a envoyé un ange qui toute la nuit n'a point cessé de me faire de la musique. » Au début de l'hiver, François se retira dans l'ermitage de Saint-Eleutherio, où malgré son état de maladie et un froid très rigoureux, il ne voulut à aucun prix laisser doubler de fourrure l'intérieur de sa robe. Et il est vraisemblable que pour la fête de Noël, il se rendit de là à Fonte Colombo. Cependant, les médecins pontificaux avaient essayé sur lui tous les moyens possibles, saignées, vésicatoires et emplâtres, sans arriver au moindre résultat. Ils avaient essayé aussi de réformer toute la manière de vivre du saint, et à cela ils avaient réussi en une certaine mesure. « Est-ce que ton corps n'a pas été pour toi toute ta vie un bon et dévoué serviteur ?» demandèrent-ils à François. Et celui-ci ne put s'empêcher de donner, en effet, un bon témoignage à son frère l'âne. « Eh bien, et toi ?»« Comment l'en as-tu récompensé ?» lui demandèrent alors les médecins. Et François fut forcé de convenir que le traitement qu'il avait infligé à son corps n'avait pas toujours été bien charitable. Sur quoi, tout repentant, il se recueillit en soi-même et s'écria « Réjouis-toi, mon frère le corps, et puis pardonne-moi, voici que je suis prêt maintenant à céder à tes désirs. » Mais de même que bien d'autres repentirent, celui-là arrivait trop tard. Désespérés, les médecins résolurent de recourir à des moyens héroïques et de brûler au fer rouge les deux tempes du malade. D'après la thérapeutique du temps, ce genre de révulsion devait être particulièrement efficace. On l'employait aussi, entre autres choses, contre les accès de folie furieuse. Or, lorsque le médecin et ses assistants s'approchèrent de François avec leurs pinces, tenant le fer rouge, François fit sur ses instruments le signe de la croix et dit « Mon frère le feu, je sais bien que tu es plus noble et plus utile que la plupart des autres créatures. » Mais tu sais de ton côté que j'ai toujours été bon pour toi et le serai toujours, par amour pour celui qui t'a créé. Eh bien, toi, montre-toi doux et aimable à mon égard et ne me brûle pas plus que je pourrais le supporter. » Puis le médecin commença les brûlures et tous les frères s'enfuirent en entendant griller les chairs sous la morsure du métal embrasé. Mais François dit seulement lorsque tout fut fini, « Si cela n'a pas été assez brûlé, vous pouvez recommencer, car je n'ai absolument senti aucun mal. » Une autre fois, comme la consultation s'était prolongée plus que d'ordinaire, François désira garder le médecin à dîner. Les frères, cependant, lui firent entendre qu'il y avait à peine assez de nourriture pour eux-mêmes et que certainement ils n'avaient rien qu'ils puissent offrir à un autre. « Allez toujours et préparez ce que nous avons, » leur ordonna François. Et à peine s'était-on mis à table que l'on entendit frapper à la porte et qu'une femme inconnue se montra sur le seuil avec une corbeille pleine des aliments les plus savoureux, du pain, du vin, du poisson, du pâté, du miel et des grappes de raisin. C'est probablement sur le conseil du même médecin que François, au cours de l'hiver, quitta le rude séjour de Fonte Colombo pour se transporter à Sienne, dont l'air plein de douceur était renommé déjà dès le Moyen-Âge. En chemin, François et ses compagnons rencontrèrent dans la plaine entre San Quirico et Campiglia trois femmes qui étaient vêtues de façon toute pareille et qui, lorsque la petite troupe des frères s'approcha d'elles, les saluèrent d'un signe de tête en s'écriant toutes trois ensemble. « Salut à toi, dame pauvreté, rencontre et salutations bien étranges qui préoccupèrent longtemps François et les autres frères. » Le traitement suivi à Sienne n'amena pas plus d'amélioration que la cure de Rieti. Mais le séjour de l'aimable ville n'en paraît pas moins avoir fait grand bien à François. Il habitait l'ermitage d'Alberino, aujourd'hui Ravasciano, un peu au nord de la ville. Et c'est là que, entre autres visites, il reçut un jour celle d'un dominicain qui, peut-être par allusion au caractère de l'œuvre de saint François, le pria de lui expliquer ces paroles d'Ézéchiel. « Si tu ne dénonces pas l'impie, son impiété, c'est à toi que je demanderai compte de son âme. » À quoi le dominicain ajoutait, « Car je connais même personnes qui vivent en état de péché mortel, et je n'ose point le leur dire. Est-ce que j'aurai à rendre compte de toutes ces âmes ?» Mais François, se plaçant à son point de vue habituel, lui répondit qu'une vie toute bonne était à l'endroit des méchants la meilleure prédication, et qu'une telle prédication satisfaisait pleinement à ce que Dieu exigeait de nous par son prophète. Toutefois, la question de ce dominicain paraît avoir fait sur François plus d'impression qu'il n'avait voulu en convenir. Quelque temps après, en effet, la nuit, il réveilla ses frères et leur dit « Je viens de prier Dieu de me dire quand je suis son serviteur et quand je ne le suis plus, car je ne désire et ne poursuis rien d'autre que le bonheur de le servir. Et le Seigneur m'a fait la grâce de me répondre. En vérité et réalité, tu es mon serviteur lorsque tu penses et agis de la façon qui convient. Par conséquent, retenez bien ceci, et méprisez-moi lorsque je ne me conformerai pas à cette prescription. » Au même ordre d'idée se rattache évidemment le soin que nous lui voyons mettre, pendant son séjour à Sienne, à ranimer de nouveau dans le cœur de ses frères la notion de leur devoir de pauvreté. Un certain sire Bonaventure leur avait fait cadeau d'un terrain pour un nouveau couvent. François, à cette occasion, promulgua les règles suivantes au sujet de la construction de l'édifice. D'abord, les frères ne devaient pas accepter plus de terrain que la quantité strictement nécessaire. En second lieu, ils ne devaient jamais rien bâtir sans la permission de l'évêque du lieu, car le Seigneur nous a appelés pour venir en aide aux prêtres romains, et non pas pour agir contrairement à eux. De cela, d'ailleurs, François avait donné le meilleur exemple lorsque, ami Imola, il s'était résigné à se voir congédié par l'évêque, à qui il avait demandé la permission de prêcher dans sa ville, et qui lui avait répondu « Frère, je suis là pour prêcher, et cela suffit. » Lorsqu'ils auront obtenu le consentement des autorités spirituelles, les frères devront creuser un fossé profond pour en faire la limite de leur territoire, et derrière ce fossé planter une bonne haie. Mais à aucun prix, ils ne devront élever des murs. Les cellules ensuite auront à être faites de bois et de boue, et on ne devra construire aucune grande église, mais seulement une petite chapelle toute pauvre. Le mieux qui s'était produit dans l'état de saint François ne fut malheureusement que de courte durée. Une nuit, il fut pris de violentes hémorragies, et ses frères crurent bien qu'il allait mourir. Tout en larmes, ils s'agenouillèrent autour de son lit et lui demandèrent sa dernière bénédiction. Puis, lorsque saint François revint un peu à lui, il pria son confesseur, le frère Benoît de Prato, d'apporter du parchemin, une plume et de l'encre. « Écris, lui dit-il, que je bénis tous mes frères, tous ceux qui sont déjà dans l'ordre et tous ceux qui entreront jusqu'à la fin du monde. Et comme signe de cette bénédiction que je leur donne, et comme souvenir de moi, je leur laisse ce testament, à savoir que toujours ils doivent s'aimer les uns les autres comme je les ai aimés et les aime encore. » Et tous, ils doivent aimer et honorer notre maîtresse d'âme pauvreté, et que toujours ils doivent obéir fidèlement au prélat et au prêtre de notre sainte mère l'Église. Après avoir dicté ces mots, François les bénit tous, de même qu'il avait coutume de faire autrefois dans les réunions des chapitres. Et pendant que les frères se rappelaient douloureusement ce souvenir et éclataient en sanglots, le malade, épuisé de son effort, referma les yeux. Pourtant, ce n'était pas encore la fin qui venait, car 6 mois devaient se passer avant que François pût souhaiter vraiment la bienvenue à sa sœur la mort. Et en attendant, il lui était réservé de poursuivre jusqu'au bout son commerce avec sa sœur la maladie. Sur le conseil du frère Élie, on le transporta à Celle, près de Cortone. Là, une hydropisie allait lui être survenue, car nous savons qu'il a eu le ventre, les jambes et les pieds très enflés. L'estomac se refusait presque à conserver aucun aliment, et à cela se joignaient de très vives douleurs dans la vessie et au foie. François n'avait plus à présent qu'un seul désir, celui de revoir Assise avant de mourir. Et le frère Élie se décida bientôt à les faire ramener. Mais craignant que les habitants de Pérouse en chemin ne s'emparassent par force de François, que tout le monde désormais considérait comme un saint consacré, Élie obligea le malade qui était déjà tout proche de ressembler à une relique bien plus qu'à un être vivant, à passer par toutes sortes de détours longs et fatigants. Par Gubbio et Nocera, le cortège parvint à l'endroit près de Bagny de Nocera, où se trouve aujourd'hui le couvent de l'Eremita. Là, une troupe d'hommes armés envoyés d'Assise vinrent prendre livraison de François pour le ramener chez eux et lui servir d'escorte pendant le reste de la route. Le même jour, vers l'heure de midi, François et ses compagnons pénétrèrent enfin sur le territoire d'Assise et s'arrêtèrent au village de Satriano, qui n'est plus aujourd'hui qu'une ferme isolée au-dessous de Sasso Rosso, dans le voisinage de Gabbiano. François y fut généreusement accueilli dans une maison privée, tandis que les soldats se répandirent dans le village pour s'acheter de quoi manger. Mais personne n'ayant voulu leur rien vendre, ils s'en revinrent tout affamés et découragés. « Oui, leur dit le mourant, voilà ce qui résulte de ce que vous vous êtes fiés à cette chose inutile qu'est l'argent. Mais essayez maintenant d'aller de porte en porte et de demander que l'on vous donne quelque chose au nom de Dieu, et vous verrez bien que vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin. » Et c'est ce qu'ils firent, et la prédiction de François se réalisa pleinement. Vers le soir, le cortège entra dans Assise. Le malade fut transporté pour se reposer à l'aise dans la maison de l'évêque, et des sentinelles furent placées autour de la maison pour empêcher tout assaut des gens de Pérouse contre le saint d'Assise. Mais si les autorités spirituelles et temporelles de la ville se trouvaient ainsi d'accord lorsqu'il s'agissait de s'assurer de la personne précieuse du saint, il y avait beaucoup d'autres sujets sur lesquels l'accord entre elles était loin d'être parfait. La première nouvelle qu'apprit François en arrivant dans sa ville natale fut que le podestat et l'évêque étaient en lutte ouverte, que l'évêque avait mis le podestat au banc de l'église et que le podestat, de son côté, avait interdit à tous les citoyens d'avoir rien à faire avec le prélat. « En réalité, dit alors François à ses frères, c'est une grosse honte pour nous, les serviteurs de Dieu, que personne ne se trouve ici pour rétablir la paix. » Et tout de suite, afin de faire du moins tout ce qu'il pouvait, il composa deux nouvelles strophes de son Cantique du Soleil, après quoi il fit demander au podestat de venir dans la maison de l'évêque et pria ce dernier de s'y trouver aussi. Les invités arrivèrent et se réunirent sur la place de l'évêché, à l'endroit même où 19 ans auparavant, François avait rendu à son père les vêtements qu'il tenait de lui. Et lorsque tout le monde fut rassemblé, deux frères mineurs s'avancèrent qui en tenèrent d'abord le Cantique du Soleil, tel que François l'avait primitivement composé, et ils ajoutèrent ensuite les deux strophes nouvelles. « Loué sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui, par amour pour toi, pardonnent à leurs ennemis et ont à subir l'injustice et la tribulation. Et bienheureux sont ceux qui persévèrent dans la paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. » Et pendant que les deux frères chantaient, tous les autres frères se tenaient là, les mains jointes, comme pendant que lecture est faite de l'Évangile à l'Église. Mais lorsque le chant fut terminé et qu'eut retenti le dernier Laudato, voici que le podestat fit un pas en avant, s'agenouilla devant l'évêque Guido et lui dit « Par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ et pour son serviteur François, je vous pardonne de tout mon cœur et suis prêt à faire votre volonté ainsi qu'il vous semblera bon. » Alors l'évêque se pencha et releva son adversaire et l'embrassa et le couvrit de baisers et lui dit « Mes fonctions exigeraient que je fusse humble et pacifique. Malheureusement, je suis par nature porté à la colère, et par conséquent, il faut que tu te montres indulgent pour moi. » Aussitôt, les frères revinrent à l'évêché et racontèrent à François la précieuse victoire qu'il venait de remporter par son poème sur les mauvais esprits de la division. Sans cesse, cependant, le malade reconnaissait plus manifestement que le terme de sa vie terrestre approchait. Un jour, il demanda au médecin qui le traitait, un médecin d'Arezzo, nommé Bondio Vanni, de lui dire exactement ce qui en était de lui. « Avec l'aide de Dieu, ton état pourra s'améliorer, » répondit d'abord d'une voix hésitante le médecin. « Je te prie de me dire la vérité vraie, ben beniato, » s'écria François. Il avait coutume d'appeler le médecin de ce surnom, parce qu'il lui semblait contraire à l'évangile de le désigner de son nom véritable. Bon Jean, puisqu'on lisait dans l'évangile que nul n'est bon que Dieu seul. Pour un motif analogue, jamais François ne voulait appeler personne maître, afin de ne pas contrevenir à un autre passage de saint Matthieu, chapitre 23, verset 9. Lors donc que le médecin vit que François exigeait de lui la vérité, il répondit ouvertement « Je conjecture que tu pourras vivre encore jusqu'à la fin de septembre ou jusqu'au commencement d'octobre. » Ce qu'entendant, François resta un moment silencieux. Mais bientôt il étendit les mains au ciel et s'écria « Eh bien donc, sois la bienvenue, ma sœur la mort !» Et puis comme si ces mots avaient rouvert la source poétique dans son cœur, il ajouta à son cantique du soleil cette dernière strophe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper, malheureux seulement ceux qui meurent en péché mortel, mais bienheureux ceux qui ont accompli tes très saintes volontés, car la seconde mort ne pourra leur faire aucun mal. » Depuis ce moment, François demanda que le frère Ange et le frère Léon se tinssent toujours auprès de lui afin de pouvoir lui chanter, quand il le désirerait, les louanges de sa sœur la mort. Et enfin, le frère Élie essaya-t-il de le prévenir qu'il risquait de causer du trouble avec tous ses chants. « Il y a au dehors des sentinelles et ces gens ne voudront pas croire que tu es un saint homme s'ils entendent continuellement chanter et jouer dans ta cellule. » Assez et trop longtemps, François s'était incliné et avait cédé. À présent, du moins, sur le point de mourir, il entendait mourir de la façon qui lui convenait. « Par la grâce du Saint-Esprit, répondit-il, je me sens si profondément uni à mon Seigneur et Dieu que je ne puis m'empêcher de me réjouir en lui et de le célébrer joyeusement. » Mais il ne s'agissait pas seulement pour lui de chanter. Le temps était venu où il devait songer à mettre sa maison en ordre. Deux sujets surtout paraissaient s'être offerts constamment à ses pensées durant ces dernières semaines. Le souvenir des fidèles frères de la Verna et de la vallée de Rieti, de la Portoncule et des Carceri, et le souvenir de Claire et des sœurs là-bas à Saint-Damien. La distance n'est point grande du palais épiscopal d'Assise à Saint-Damien, et cependant François ne devait plus la franchir de son vivant. Claire avait beau lui envoyer des messages et le supplier de venir pour qu'elle pût lui dire adieu, une telle visite désormais n'était plus possible. Aussi dut-il se contenter de lui envoyer par écrit sa dernière bénédiction. « Étudiera, sœur Claire, » recommanda-t-il au frère chargé de porter sa lettre, « que je la quitte de tout manquement aux ordres du Fils de Dieu, ou au mien qu'elle pourra avoir commis, et qu'il faut qu'elle dépose tout ceci et tout chagrin. Car si maintenant il est impossible que nous nous voyions, je lui promets qu'avant qu'elle meure, elle-même et ses sœurs me verront encore, et en retireront grande consolation. » Ce qui prouve avec grande vraisemblance que c'est François lui-même qui a ordonné que sa dépouille après sa mort fût portée à Saint-Damien. Restait encore à laisser une parole d'adieu pour les frères aimés, et c'est ce que fit François dans son testament, cet écrit merveilleux qu'il rédigea sur son lit de mort, et où nous le voyons jeter un regard en arrière sur toute sa vie, se rappeler avec un mélange de tristesse et de joie la fraîcheur matinale des premiers temps de sa conversion, mais aussi songer avec une inquiétude douloureuse à ce que vont apporter les années prochaines à ses fidèles disciples. Une dernière fois, il recueille ici, en courtes phrases pénétrantes, toutes les admonitions contenues dans ses discours et ses lettres. « À moi, frère François, le Seigneur a d'abord imposé de faire pénitence ainsi. Lorsque je vivais encore dans mes péchés, je ressentais une répugnance pénible à voir des lépreux. Or, le Seigneur lui-même m'a conduit vers eux, et j'ai exercé la compassion à leur égard. Et lorsque je me suis séparé d'eux, ce qui autrefois me semblait amer, s'était transformé en douceur, à la fois pour mon âme et pour mes sens. Et après cela, il ne s'écoula plus que peu de temps jusqu'au jour où j'abandonnais la vie du monde. Et le Seigneur m'a prêté une foi si grande dans les églises que je priais simplement en disant « Nous t'implorons, Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde entier, et nous te remercions d'avoir daigné racheter le monde par ta sainte croix. » Et le Seigneur m'a prêté et me prête encore une si grande confiance dans les prêtres qui vivent suivant les lois de la Sainte Église romaine, que si même ils me persécutaient, je n'en aurais pas moins recours à eux en raison de leur caractère sacré. Et si même j'avais autant de sagesse que Salomon, et que je trouvasse dans les paroisses de pauvres petits prêtres, jamais je ne consentirais à prêcher contre leur gré. Et ces prêtres-là, et tous les autres, je suis résolue à les craindre, à les aimer, et à les honorer comme mes seigneurs. Et je suis résolue à ne pas voir leurs fautes, car je vois en eux le Fils du Dieu, et ils sont mes seigneurs. Et je fais cela parce que sur cette terre, je ne puis rien voir corporellement du Fils du Dieu Tout-Puissant, que son très saint corps et son très saint sang, tels que les prêtres les reçoivent et les transmettent aux autres fidèles. Et ces très saints mystères, je veux les glorifier et les honorer par-dessus tout le reste et les conserver dans des endroits précieux. Aussi, toutes les fois que je trouve le très saint nom du Seigneur ou ses paroles dans des endroits qui n'en sont pas dignes, je ne manque pas de les recueillir et je demande que mes frères les recueillent semblablement et les conservent dans des endroits honorables. Et il faut encore que nous estimions et honorions tous les théologiens et tous ceux qui nous servent au moyen de la sainte parole de Dieu, car ce sont eux qui nous donnent l'esprit et la vie. Et après que Dieu m'eut donné des frères, personne ne me montra ce que je devais faire. C'est le Très-Haut lui-même qui me révéla ce que je devais vivre d'après la règle du Saint-Évangile. Je fis donc transcrire cette règle en peu de mots, et très simplement. Et notre Seigneur, le Pape, daigna me la confirmer. Et tous ceux qui vinrent vivre cette vie eurent d'abord à donner aux pauvres tout ce qu'ils possédaient. Et nous nous contentions d'un seul habit, rapiécé au dehors et au dedans, ainsi que d'une seule corde et d'un seul pantalon. Ceux d'entre nous qui étaient clercs récitaient l'office comme les autres prêtres, tandis que les laïcs récitaient le Notre Père. Et nous étions très assidus à fréquenter les églises, et tous nous étions ignorants et illettrés et soumis à chacun. Et pour ce qui est de moi, je travaillais de mes mains et je veux continuer à le faire. Et j'exige expressément que tous les frères travaillent à un ouvrage manuel honorable. Ceux qui n'en connaissent point doivent en apprendre un, non par désir du profit, mais à cause de l'exemple et pour éviter l'oisiveté. Lorsque nous ne pouvons rien obtenir en échange de notre travail, dans ce cas, nous devons nous asseoir à la table que le Seigneur a couverte pour nous, en allant mendier des provisions de porte en porte. Et le Seigneur m'a aussi révélé une salutation que nous devons toujours dire. Que le Seigneur te donne la paix. Il faut que les frères se gardent bien d'accepter jamais des églises ou des habitations ou rien d'autre de ce que l'on peut faire bâtir pour eux, lorsque tout cela ne s'accorde pas avec les exigences de la sainte pauvreté que nous avons juré de suivre dans notre règle. Et il faut que les frères ne demeurent jamais nulle part autrement que comme des étrangers et des pèlerins. Au nom de l'obéissance, j'ordonne strictement à tous les frères, en quelque lieu qu'ils se trouvent, de ne jamais oser solliciter de la cour romaine un écrit pontifical, ni directement, ni par un intermédiaire, et ni pour une église, ni pour un couvent, ni afin de pouvoir prêcher, ni afin d'échapper à des persécutions. Dans les endroits où l'on refuse de recevoir les frères, ils doivent s'en aller et se retirer ailleurs pour faire pénitence avec la bénédiction de Dieu. Et je veux, pour ma part, obéir rigoureusement au ministre général de notre confrérie, ainsi qu'au gardien qu'il lui plaît de me donner. Et je veux être tenu dans ses mains de telle sorte que sans sa permission ou bien contre son gré, je ne puisse ni faire un pas, ni tenter aucune action, car il est mon maître et seigneur. Et bien que je sois un pauvre homme, ignorant et simple d'esprit et malade, je veux toujours avoir près de moi un clerc, afin qu'il puisse réciter l'office avec moi, ainsi que cela est écrit dans la règle. Et tous les autres frères sont d'eux-mêmes strictement tenus d'obéir au gardien et de réciter l'office d'après leurs règles. Et s'il y en a qui ne veulent pas réciter l'office d'après la règle, et qui prétendent introduire une manière nouvelle, ou bien qui ne sont pas catholiques, tous les autres frères ont le devoir, de par l'obéissance, chaque fois qu'ils trouvent un frère de cette sorte, de le livrer au custode du couvent le plus proche de celui où ils l'auront trouvé. Et ce custode lui-même est tenu au nom de l'obéissance de veiller soigneusement sur lui jour et nuit, de façon qu'il ne puisse pas s'échapper de ses mains jusqu'au jour où il pourra à son tour le livrer à son ministre. Et le ministre est tenu au nom de l'obéissance de l'envoyer en compagnie de frères qui veilleront sur lui nuit et jour vers le cardinal d'Ostie, qui est le maître, le protecteur et le correcteur de l'ordre entier. Et les frères ne doivent point dire que c'est là une règle nouvelle, car ce n'est qu'une leçon, une admonition, un encouragement, et mon testament que moi, votre petit frère François, je vous laisse, mes frères bénis, afin que vous puissiez observer la règle d'une façon meilleure et plus catholique, puisque nous avons tous juré au Seigneur de la suivre. Et au ministre général et à tous les autres frères et custodes, j'ordonne, au nom de l'obéissance, de ne rien ajouter à ces mots que j'écris, ni de n'en rien retrancher. Et toujours ils devront avoir sur eux aussi cet écrit, avec leurs règles. Et lorsqu'ils feront lecture de la règle dans les chapitres, ils devront lire le présent écrit. Et au nom de l'obéissance, j'ordonne rigoureusement à tous mes frères, prêtres, aussi bien que laïcs, de se garder d'introduire aucune interprétation dans la règle, ni dans ce testament en disant « Ceci doit être entendu de telle ou telle façon ». Et de même que le Seigneur m'a permis de dire et d'écrire simplement la règle et le présent écrit, de même vous devez tous les comprendre simplement et sans interprétation et vous y conformer saintement jusqu'à la fin. Et chacun de vous qui aura fait ainsi se trouvera rempli au ciel de la bénédiction du Père suprême, et ici sur la terre de la bénédiction du Fils bien-aimé et du Saint-Esprit Consolateur et de toutes les puissances célestes et de tous les saints. Et moi, le frère François, votre petit serviteur, je confirme autant que je puis, à la fois intérieurement et extérieurement, cette très simple bénédiction. Désormais, François avait de son mieux pourvu à l'avenir. Les ordres même du pape au Moyen-Âge manquaient souvent à produire l'effet qu'on en avait attendu. Et il se peut bien que François n'ait guère fondé grand espoir sur l'obéissance que ses frères accorderaient à ses dernières volontés. Mais du moins sa conscience était maintenant en repos. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Jusqu'à la fin, il entoura ses frères d'un touchant amour. Comme tous les malades, étendu sur son lit de souffrance, souvent il avait des désirs ou des caprices imprévus. Une fois par exemple, incapable de rien avaler, il disait « Si cependant j'avais un peu de poisson, je crois bien que je pourrais en manger. » Une autre fois, au milieu de la nuit, l'envie lui vint de quelques feuilles de persil, dont il se figurait qu'elles lui feraient du bien. Et ce n'est qu'à contre-cœur que le frère à qui il s'était adressé se mit en route pour chercher parmi les ténèbres ces feuilles de persil dont la recherche lui paraissait aussi difficile que vaine. Ainsi François aura sans doute plus d'une fois aperçu une ombre d'impatience sur le visage de ses frères. Et bientôt il s'en fit un vif scrupule. « Qui sait, songeait-il, si je ne suis point cause que mon frère commet un péché d'irritation ? Qui sait s'il ne se dit point que n'ayant point à se fatiguer pour moi, il pourrait prier beaucoup plus et vivre d'une façon beaucoup plus conforme à la règle. Si bien qu'un jour il appela autour de lui tous les frères et les supplia de ne pas se fâcher des fatigues et des ennuis qu'il leur causait, en ajoutant que le travail qu'il faisait pour lui ne s'adressait pas seulement à sa personne, mais à l'ordre entier avec lui. Et puis, lorsque vous vous fatiguez pour moi, mes bien chers frères, ayez toujours à l'idée que le Seigneur vous repaiera tout ce que vous faites pour moi. Enfin, pour imposer moins de travail aux frères, François résolut de se faire transporter à la Portioncule. L'évêque Guido était alors absent. Il était parti en pèlerinage au mont Gargano, peut-être en pénitence de sa querelle avec le podestat. Quant aux habitants d'Assise, ils ne se refusèrent pas à la translation, mais exigèrent seulement que les sentinelles suivissent François à la Portioncule. Et ainsi, escortés d'une grande foule, les frères emportèrent le malade hors de la ville. Du palais épiscopal, le cortège passa sous la Porta Sia, la grande porte principale d'Assise, aujourd'hui murée, entre la porte Mojano et la porte Saint-Pierre. Puis, en suivant le chemin qui longe les remparts, on arriva à Saint-Sauveur-les-Murs, l'hôpital des lépreux, à peu près à mi-chemin entre Assise et la Portioncule, aujourd'hui Casa Galli. Là, dans cet endroit infiniment riche de souvenirs pour l'histoire de la conversion de Saint-François, le malade demanda que l'on mît à terre le brancard où il était étendu. « Et il faut que vous me tourniez le visage du côté d'Assise, » ajouta-t-il. Il y eut un moment de très profond silence pendant que le malade, avec l'aide de ses frères, se redressait un peu sur le brancard. Au-dessus de lui, sur le flanc de la montagne, s'étendaient les remparts et les portes d'Assise, et les rangées montantes des maisons entourant les tours de Saint-Ruffin et de Sainte-Marie de la Minerve. Et plus haut encore, dominant la ville, se dressait, comme il se dresse aujourd'hui, le rocher nu de Sasso Rosso, portant à sa cime les ruines du burg allemand. Dans le lointain, on apercevait les hauteurs bleues du mont Subasio, où se trouvait l'ermitage des Carceri, et au pied du mont se cachait Saint-Damien. Enfin, entre François et la ville, se déployait la grande plaine, où durant sa jeunesse il avait aimé à diriger ses promenades solitaires, en rêvant d'accomplir d'immenses exploits. C'est de ce pays et de cette ville qu'autrefois il était parti, et c'est dans ce pays et dans cette ville que maintenant il était revenu pour y mourir. De ses yeux presque aveugles, longtemps François considéra la ville et les montagnes au-dessus d'elle et la vallée au-dessous. Puis lentement, il souleva sa main et dessina un grand signe de croix sur assise. « Béni sois-tu, Seigneur, s'écria-t-il, car il t'a choisi pour être la patrie et la demeure de tous ceux qui le reconnaissent et le glorifient en vérité et qui veulent honorer son nom. » Après quoi, épuisé de son effort, il se laissa retomber sur le brancard et les frères continuèrent à descendre le chemin qui menait à la Portioncule. Le malade fut transporté dans une cabane qui se trouvait à quelques pas seulement derrière la chapelle. C'est là qu'il eut la consolation de recevoir la visite de son frère Jacqueline, dame Jacoba de Septensolis. Elle arriva tout juste au moment où François se préparait à dicter une lettre pour la prier de venir. Le bruit de la maladie incurable du saint était parvenu à Rome, et dame Jacqueline s'était empressée de se mettre en route pour Assise, en emportant la robe qu'elle avait tissée pour François et qui devait lui servir de vêtement mortuaire, comme aussi des cierges et de l'encens pour les fêtes, les obsèques. Aucune femme n'avait le droit de pénétrer à la Portioncule, mais exception fut faite pour le frère Jacqueline. Toute pleurante, elle se jeta sur la couche du maître bien-aimé, et comme autrefois Madeleine, aux pieds de Jésus, se murmurait à l'oreille des disciples. Cette visite eut pour effet de réconforter François, et Jacqueline, pour lui faire encore plus de plaisir, se mit à lui apprêter son mets romain favori, dont il avait souvent parlé durant sa maladie en exprimant le désir d'en manger. Mais François n'était plus en état de manger aucun mets. Du moins voulut-il goûter à l'œuvre de son ami. Ayant fait venir le frère Bernard, il lui demanda de prendre part lui aussi au précieux régal. L'arrivée de Jacqueline de Septensolis eut lieu dans la dernière semaine de la vie de François. Le jeudi suivant, qui était le premier jour d'octobre, le mourant rassembla ses frères autour de lui et bénit chacun d'eux en particulier. Avec une tendresse toute particulière, il posa sa main sur la tête de Bernard de Quintaval. « Écris ceci, dit-il au frère Léon, que autant que je puis, je désire et ordonne que tous les frères, dans l'ordre entier, honorent mon cher frère Bernard, comme si c'était moi-même. » Car il était le premier qui est venu à moi et qui a donné ses biens aux pauvres. Puis il fit encore une dernière admonition à ses frères et leur rappela d'avoir toujours, surtout à cœur, leur attachement à la sainte pauvreté et leur demanda, comme symbole de cet attachement, de rester toujours fidèles à la pauvre petite Portioncule. Que si on vous en chasse par une porte, revenez par une autre, leur dit-il. Car c'est ici la maison de Dieu et le portique du ciel. Enfin, de tout son cœur débordant de tendresse, il bénit non seulement tous les frères absents, mais encore tous les frères qui dans l'avenir feraient partie de son ordre. « Je les bénis, disait-il, autant que je puis, et même encore plus que je ne puis. » Et jamais peut-être il n'avait rien dit qui exprimât mieux tout le tréfonds de sa nature que ce « plus » quam possum, car l'esprit qu'il agitait n'avait jamais voulu se satisfaire avant d'avoir fait plus qu'il ne pouvait. Et maintenant encore, sur son lit de mourant, cet esprit ne lui laissait pas de repos. Après qu'il eut baigné ses disciples, il se fit dépouiller de tous ses vêtements et ordonna qu'on le déposât nu sur la terre nue. C'est ainsi que, couché sur le sol de sa cellule, il reçut son gardien comme une dernière aumône, l'habit dans lequel il devait mourir. Et comme cet habit ne lui paraissait pas d'apparence assez pauvre, il demanda que l'on y cousît une pièce. De la même façon, il reçut un pantalon, une corde ainsi qu'un capuchon, car pour cacher les cicatrices de ses tempes, toujours maintenant il avait coutume de porter un capuchon autour de la tête. Ainsi, il sut garder jusqu'au bout sa foi à dame pauvreté, au point de mourir sans posséder rien de sur la terre que ce qu'il avait possédé en arrivant au monde. Puis le malade, épuisé, s'endormit. Mais le vendredi matin, de bonne heure, il se réveilla avec de cruelles souffrances. Les frères étaient maintenant constamment réunis autour de lui, et l'amour de saint François pour eux allait s'exprimer encore d'une façon nouvelle. Se figurant que c'était encore le jeudi, jour où le Seigneur avait mangé son dernier repas avec ses disciples, il fit apporter un pain, le bénit, le rompit et le distribua à tous ses frères. « Et maintenant, allez me chercher l'Écriture, dit-il, et lisez-moi l'Évangile du jeudi saint. » Quelqu'un lui fit observer que ce jour n'était pas un jeudi. Mais il répliqua, « N'importe, j'avais cru que nous étions encore au jeudi. » Le livre fut donc apporté, et pendant que le jour montait à l'horizon, les frères firent entendre au-dessus du lit de mort de saint François ces paroles de la Sainte Écriture, où se trouvait vraiment résumé à la fois tout le rêve de sa vie et toute sa doctrine. Avant la fête de la Pâque, Jésus sut que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en retourner vers son Père. Et de même qu'il avait jusqu'alors aimé les siens et qui étaient en ce monde, de même il les aima jusqu'à la fin. Et après avoir soupé avec eux, et lorsque déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de trahir, Jésus, sachant que son Père lui avait remis toutes choses entre les mains et qu'il était issu de Dieu et s'en retournait à Dieu, se leva de la table du souper et se dépouilla de son manteau, ayant pris un linge, s'en ceignit. Puis il mit de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et le tour vint pour lui d'aborder Simon-Pierre. Et celui-ci lui dit, « Seigneur, est-ce que tu vas me laver les pieds ?» À quoi Jésus répondit en lui disant, « Tu ne sais point à présent ce que je fais, mais tu le sauras plus tard. » Et Pierre lui dit, « Jamais je ne permettrai que tu me laves les pieds. » Mais Jésus lui répondit, « Si je ne te les lave, tu n'auras point de part avec moi. » Et Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, voici non point seulement mes pieds, mais encore mes mains et ma tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est lavé déjà, à celui-là il suffit de laver les pieds, et il est tout pur. Et vous, vous êtes purs, mais non point tous d'entre vous. » Car il savait qu'il y en avait un d'entre eux qui allait le trahir, et c'est pourquoi il avait dit, « Vous n'êtes point tous purs. » Et après donc, qui leur eut lavé les pieds et eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit, « Savez-vous bien ce que je vous ai fait ? Si vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je suis cela, mais que si maintenant, moi, votre maître et seigneur, je vous ai lavé les pieds, il faut que désormais, vous aussi, vous vous laviez les pieds les uns aux autres, car je vous donnais là un exemple afin que vous fassiez les uns pour les autres ce que j'ai fait pour vous. » Pendant les 24 heures que François vécut encore, aucun des frères ne s'éloigna d'auprès de son lit. Les frères Ange et Léon eurent à lui chanter de nouveau le cantique du soleil, et sans cesse on entendait sortir des lèvres du mourant les derniers vers de l'hymne. « Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour notre sœur la mort. » Demanda aussi à son gardien qu'on le dévêtît de nouveau lorsqu'approcherait le dernier instant, afin qu'il pût mourir nu sur la terre nue. Le vendredi s'écoula, et l'on put au samedi 3 octobre. Le médecin arriva, et François l'accueillit en lui demandant quand les portes de la vie éternelle s'ouvriraient enfin pour lui. Il pria également ses frères de répandre des cendres sur lui, car bientôt, « Je ne serai plus rien que poussière et cendre. » Vers le soir, il commença à chanter avec une force extraordinaire. Ce qu'il chantait n'était plus le cantique du soleil, mais le 142e psaume de David, qui dans la Vulgate débute ainsi. « Voce mea ad dominum clama vi. » Le soir d'octobre tombait très tôt, et dans la petite cabane enténébrée au milieu du bois, près de la Portioncule, Les disciples, écoutant leur maître et retenant leur souffle, entendaient François chanter, le visage tourné vers le ciel. « De ma voix j'ai appelé le Seigneur, de ma voix j'ai élevé ma prière vers lui. Je verse à ses pieds mon oraison, et en sa présence je proclame ma tribulation. Lorsque l'Esprit qui est en moi m'abandonnait, Seigneur, tu as connu mes sentiers, et tu as connu les pièges qui m'étaient tendus dans la voie où je marchais. Je regardais à ma droite pour voir si quelqu'un me reconnaîtrait, et il n'y avait personne qui me reconnut. La fuite m'était fermée, et il n'y avait personne qui me vint en aide pour me sauver la vie. Alors j'ai crié vers toi, Seigneur, et je t'ai dit, « Tu es mon espoir, mon partage sur la terre des vivants. Daigne écouter ma déprécation, me voyant humilié au point où je le suis. Délivre-moi de mes persécuteurs, car voici qu'ils sont devenus trop forts contre moi. Daigne tirer mon âme de cette prison, afin que je bénisse ton nom, car les justes m'attendent jusqu'à ce que tu m'accordes cette grâce. » Or, pendant que François priait ainsi, peu à peu la petite cellule était devenue toute sombre. Enfin, sa voix se tut, et un silence de mort se répandit dans la cellule. Un silence que cette voix désormais ne devait plus rompre. Les lèvres de François d'Assise s'étaient fermées pour toujours. En chantant, il était entré dans l'éternité. Cependant, Dieu permit qu'une dernière salutation à son jongleur divin se fit entendre au-dessus de la maison et partout alentour. Car à peine la voix du saint venait-elle de se taire, que tout l'air environnant fut rempli d'un frémissement soudain et sonore. C'étaient les fidèles amis de saint François, les alouettes, qui venaient lui apporter leur dernier adieu.